J'ignore Augustine avait une belle position derrière la quiche. Il ne se retira pas et préféra se retirer derrière les lignes de la lutée. S'appuyant aux montagnes de Vosges et au Rhin à Lauterbourg, en choisissant sa position si éloignée de Mayence, ce qu'on ne pouvait pas abandonner longtemps, le général en chef avait bu, sans doute obtenir un peu de loisir pour instruire et discipliner une armée jeune et sans expérience. Mais il fut blâmé par beaucoup de généraux, et particulièrement par Coquebert, l'un de ses aides-de-camp. Cet officier, d'un mérite très distingué, lui était agréable non seulement par des connaissances remarquables, même dans l'âme du génie, dont il sortait, mais encore par une franchise de caractère qui n'était pas sans apprêter. Toujours après l'arrivée du quartier général à Weissenburg, Coquebert se présenta chez son général et après lui avoir rappelé de nouveau les puissances motifs qui auraient dû lui faire préférer la position déléguée. Il lui dit durement qu'il aurait des bruits fâcheux sur sa détermination contraire et que le mot de trahison avec même était prononcé. Coustine furieux saute sur ses pistolets et les jetons sur la table. « Je suis un traître !» lui criait-il. « Faites-moi sauter la cervelle !» Coquebert frappé par le noble mouvement d'une âme si odieusement outragée, fut saisi de désespoir et ne répondit à son général qu'en se tirant un coup de pistolet à travers le visage. Il tomba la mâchoire fracassée, mais il n'en mourut pas. Dans le procès qui conduisait le général Coustine à l'échafaud, Coquebert fut appelé comme témoin dans l'espérance qu'il renouverait son accusation, mais il se conduit ici en honnête homme, justifia complètement son général et s'accusa lui-même d'un accès de folie. Il fut employé depuis et fut fait prisonnier à la bataille d'Onschut. J'ai les vœux depuis à Paris et soit par suite des mauvais traitements qu'il reçut dans sa captivité, soit plutôt que sa tête si remarquable autrefois par sa solidité fut désorganisée. Depuis longtemps, il est devenu complètement insensé et il est mort dans une maison de fous. Quoiqu'on lui eût prodigué beaucoup de soins pendant plusieurs années. Le départ du général Huchard laissa vacante la place du chef d'état-major général de l'armée. Coustine la donna au colonel Dillier, qui fut nommé maréchal des camps et qui me choisit pour son aide-de-camp. J'acceptai cet emploi avec une grande joie parce que c'était un avancement et aussi parce qu'il me donnait l'avantage inappréciable de m'instruire. L'armée alors ne s'élevait pas à 40 000 hommes. La composition des généraux était bonne. La plus grande partie d'entre eux appartenait à cette partie de la noblesse qui avait donné des preuves de fidélité à la patrie en la défendant contre les étrangers. Ils en furent cruellement punis. La méfiance contre les nobles devenait chaque jour plus inquiète dans le nouveau gouvernement. L'armée avait près d'elle des commissaires de la Convention qui partageaient cette méfiance. L'étendue des pouvoirs dont ils étaient revêtus leur en fit contracter promptement les abus. Les généraux en chef étaient obligés de leur communiquer et de débattre avec eux, non seulement ses plaintes, mais encore tous les détails de l'armée. Ils étaient la source de toutes les grâces et bientôt leur influence devint dangereuse et fatale à la considération du général en chef. Beaucoup de généraux supportaient avec passion cette hauteur de proconsul qu'ils affectaient avec eux et souvent ils la seront échappés des plaisanteries offensantes. Les caractères violents du général Coustine répusaient souvent avec emportement les contradictions que l'absence de toute convenance d'instruction militaire rendait insupportable. La situation devenait chaque jour plus difficile. Il fallait cependant agir. La communication avec l'Indo n'était plus militaire, mais établie. Les sièges de Mayence s'étaient posés avec vigueur. Gustine fut nommée à cette époque commandant en chef de l'armée du Nord, à la place au général Dampierre, qui venait d'être tué. Il ne voulut pas quitter l'armée du Rhin. Sans les voir tirer de la mauvaise position où elle se trouvait, il attaqua l'ennemi sur toute la ligne, mais sans succès. On a publié dans ce temps qu'il avait voulu faire battre son armée par le corps des émigrés. Colonie absurde! À peine avons-nous vu cette troupe dans cette journée d'août 17. La vérité est... 17 mai, la vérité est que le général qui commandait la droite de l'ennemi à l'Arthurburg n'obéit point aux ordres qu'il avait reçus ou qu'il ne les exécuta formellement. L'ennemi qui, d'après le plan du général en chef, devait être tourné par sa gauche, n'étant point attaqué, se trouva en force devant le centre de l'armée commandée par Custine. Une charge de cavalerie fut reposée par la mitraille des deux pièces de canon masquées. Et dans sa fuite, cette cavalerie entraîna quelques bataillons. J'ai l'émotion de cette journée qui est parce qu'on nous fit un chef d'accusation contre les malheureux Custine. Il nous quitta le lendemain pour se rendre à l'armée du Nord. Où les préventions et la colonie les suivront. On les destitua bientôt après. Il fut mandé à Paris, est-il, et périt sur l'échafaud. Sa condamnation fut un des premiers crimes de ce tribunal du sang, qui depuis on a répondu par Théron. Custine aimait la liberté et j'aimais l'idée d'une trahison n'approchée de sa pensée. Les sécures de la religion adduceront l'horreur de ces derniers moments. Et tel était l'espèce de fanaticisme de ce temps qu'un homme qui s'était toujours montré intrépide dans les dangers fut accusé de pusillanimité. Parce qu'en allant au supplice, il était accompagné d'un ecclésiastique.